1901 sur 90, c'est la radio des assos. Une émission proposée par l'AGLCA, Maison de la vie associative de Bourg-en-Bresse, avec l'aide précieuse de Radio B.
Chers associatifs, associatives, bonjour. Le mois de novembre est là, avec lui la chute des températures, la pluie et les journées qui raccourcissent. Et forcément, on pense à ceux qui fuient des pays dont la météo est bien plus favorable, mais touchés par la guerre et qui se réfugient en France. On va donc parler aide et solidarité envers les demandeurs d'asile, et nous accueillons pour cela Pierre Mestre de l'ASDA 01. Bonjour.
Bonjour.
Après l'interview du jour, nous discuterons de la valorisation des bénévoles avant de terminer par l'agenda de l'AGLCA. 1901 sur 90, on vous présente l'assaut du jour.
Alors, l'ASDA veut dire aide, solidarité envers les demandeurs d'asile. Nous avons dit dans notre introduction que ces personnes fuient la guerre, mais est-ce qu'ils ne fuient que la guerre ?
Alors en fait, donc l'ASDA effectivement est une association qui est composée uniquement de bénévoles, qui a son siège social à la GLCA. Donc nous sommes voisins et vous nous hébergez, plutôt vous nous domiciliez, parce que c'est une distinction qu'on va reprendre par rapport aux demandeurs d'asile. Donc vous nous domiciliez et nous sommes hébergés par le Secours catholique qui gracieusement met à notre disposition des locaux. Qui nous permettent de tenir des permanences le mardi et le vendredi matin pendant toute l'année. Donc l'ASDA, qui est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années, accompagne dans leur démarche administrative et judiciaire les demandeurs d'asile.
Alors, quelle que soit leur origine, quelle que soit la raison pour laquelle ils arrivent.
Voilà. Et donc, nous n'avons pas, bien évidemment, à juger ni à évaluer du bien fondé de la demande d'asile. Et donc, je vais répondre comme ça à votre interrogation. Qui est un demandeur d'asile ? Et en fait, la demande d'asile, elle a 4 ou 5 catégories sur lesquelles je vais aller très rapidement. Premièrement, peuvent demander l'asile toute personne. Et ce n'est pas ni à nous, ni au préfet, ni à d'autres personnalités à décider s'ils ont le droit de demander l'asile. C'est une demande qui, en soi, est légitime à partir du moment où elle est faite.
Donc toute personne qui veut demander l'asile en France peut le faire.
A le droit. Et cet asile, il peut être demandé au regard de ce qu'on appelle l'asile constitutionnel, c'est-à-dire que la Constitution française prévoit qu'une personne qui est atteinte dans sa liberté pour des raisons politiques a le droit de demander l'asile. Donc ça, c'est l'asile constitutionnel. Il y a une deuxième forme d'asile qu'on appelle l'asile conventionnel, parce que la France a signé et ratifié ce qu'on appelle la Convention de Genève. Et cette Convention de Genève prévoit que toute personne qui, pour des raisons politiques, religieuses, ethniques, d'orientation sexuelle, peut demander l'asile. Donc on n'est pas sur des problèmes de guerre. On est bien sur des situations où les personnes dans leur pays d'origine sont menacées ou violentées, et ces personnes-là ne peuvent pas se prévaloir de la protection des autorités judiciaires, policières, administratives de leur pays d'origine. La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle la protection subsidiaire, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui, y compris pour des motifs privés, c'est-à-dire des conflits familiaux par exemple, on a vu des femmes qui étaient violentées par leur mari, par leur conjoint, mais qui ne pouvaient pas se prévaloir de protection par les autorités de leur pays, par exemple pour des questions de mafia, eh bien, ont le droit de demander l'asile aussi. Il reste 2 catégories, je vais aller très rapidement. Il y a les demandeurs d'asile qui passent par le HCR. Le HCR, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés qui est connu. Et la dernière catégorie qu'on voit moins, nous, parce qu'elle est traitée directement par les autorités, c'est la protection pour apatridaires, c'est-à-dire pour les personnes qui ils sont apatrides et qui demandent donc une protection à ce niveau-là. Est-ce que j'ai été à peu près clair?
Oui, mais une question, comment est-ce qu'on peut devenir apatride?
Donc, je ne vous répondrai pas parce que, d'une part, je n'en sais pas trop sur cette question. À l'ASDA, dans l'Ain, nous n'avons jamais eu cette situation. Et ces situations, elles sont vues directement par l'OFPRA, dont je parlerai, si vous le voulez bien, tout à l'heure.
Et ben, justement, oui. Finalement, donc, comment vous travaillez avec l'OFPRA? Quel est votre rôle par rapport à eux?
Alors, si vous voulez, le parcours d'un demandeur d'asile, il est... En même temps simple et en même temps très complexe pour des personnes qui arrivent, qui n'ont pas le français, pour la plupart, et qui ont donc à se démêler dans un labyrinthe administratif qui est compliqué. Donc, ce qu'on peut simplement dire, c'est que la première instance administrative qui est habilitée et qui est légitime pour juger du bien fondé d'une demande d'asile, c'est l'OFPRA. L'OFPRA, ça veut dire l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Et donc cet OFPRA, qui est à Montreuil, et donc il est avec quelquefois des séances foraines à Lyon, par exemple, mais cet organe central, qui est un organe d'État administratif, reçoit la demande, qui est instruite par différents intermédiaires, mais pour aller vite, Alpha 3A dans l'Ain, et l'OFI à Lyon. Donc cette demande d'asile est instruite par l'OFPRA, qui va entendre le demandeur d'asile. Donc le demandeur d'asile doit se déplacer à Montreuil avec un interprète, l'interprète qui sera mis à sa disposition. Et il y a un entretien par lequel le demandeur d'asile va expliciter les raisons qui l'ont conduit et forcé à quitter son pays et à faire une demande d'asile.
Et dans tous les cas, ils sont obligés d'aller à Montreuil pour...
En règle générale, oui, c'est la grosse majorité. Il y a des situations qu'on reverra peut-être tout à l'heure. C'est les demandes de réexamen où, quand l'OFPRA juge que la demande est abusive, peut prendre une décision par ordonnance sans recevoir le demandeur. Mais on va dire que dans la majorité des cas, l'OFPRA prend le temps de recevoir le demandeur, de l'entendre et de se faire une opinion qui va aboutir à une décision.
Et du coup, vous, quel est votre rôle dans tout ça? Comment vous intervenez pour aider ces réfugiés?
Alors, nous, on intervient après. C'est-à-dire que quand l'OFPRA a pris une décision qui, bon an, mal an, dans 90% est négative, c'est-à-dire qu'il y a un rejet de la demande, tout demandeur d'asile a le droit de faire appel à cette décision qui reste une décision administrative et il fait appel devant une instance judiciaire qui est la Cour nationale du droit d'asile. Le sigle, c'est la CNDA. Et donc cette CNDA instruit le dossier et nous, on intervient pour ce recours à la CNDA. Donc, premièrement, à compter du jour où une personne a reçu la décision de refus de l'OFPRA, il y a 15 jours, donc les délais sont excessivement courts, il y a 15 jours pour que nous fassions, pour que la personne plutôt, hein, que le demandeur d'asile, fasse une demande d'aide juridictionnelle pour être assisté d'un avocat. Cette aide juridictionnelle est en général est accordée et on va, nous, à l'ASDA, donc faire cette demande d'aide juridictionnelle et on va travailler avec le demandeur le recours à la CNDA. Et donc on va prendre 3 documents qui vont nous permettre de travailler juridiquement le recours et de voir par un entretien avec le demandeur de quelle manière il peut lui répondre aux motifs et aux objections qu'avance l'OFPRA pour étayer son refus. Et donc, ces 3 documents, ce sont le récit qu'a fait le demandeur des raisons de sa demande d'asile, la transcription écrite de l'entretien que l'officier de l'OFPRA a eu avec le demandeur d'asile, et le troisième document, c'est la décision motivée de l'OFPRA. Avec ces trois documents, on doit normalement avoir la base qui nous permette de faire le recours à la CNDA en disant « l'OFPRA a pris une décision négative pour telle et telle raison, voilà ce que moi, demandeur d'asile, je veux répondre à ces arguments-là ». Et donc on explicite et on explique par écrit les motifs qui conduisent le demandeur d'asile à contester cette décision de l'OFPRA.
Partir, sachant seulement un matin qu'il faut partir, ignorant tout de ce que sera l'avenir. Partir au loin pour un ailleurs. Partir pour d'autres cieux, d'autres salaires, d'autres matins. Partir comme une ombre brisée sur le chemin. Partir en y laissant son cœur. Partir, quitter sa ville, son village, sa maison. Quitter sa terre, ses racines, ses chansons. Partir pour un monde meilleur. Partir en y laissant son cœur. Partir, partir le cœur à l'agonie, le cœur brisé. En infidèle, en clandestin, en accusé. Partir avant le petit jour. Partir pour que l'espoir encore survive dans nos cœurs. Pour juste un peu de liberté et de chaleur. Peut-être encore un peu d'amour. Quitter sa ville, son village, sa maison. Quitter sa terre, ses racines, ses chansons. Partir pour un monde meilleur. Partir pour que l'espoir encore survive dans mon cœur. Pour juste un peu de liberté et de chaleur. Partir au loin.
Nous sommes de retour avec Pierre Mestre de l'ASDA, aide solidarité envers les demandeurs d'asile.
1901 sur 90, on vous présente l'assaut du jour.
Pierre, un petit mot sur la musique que l'on vient d'entendre ?
C'est une chanson d'un chanteur de mon temps, on va dire, qui s'appelle Alain Barrière. Outre le fait qu'il a une très belle voix et qu'il écrit très bien, c'est une chanson qui me touche particulièrement, parce que le titre c'est Partir, et j'y retrouve beaucoup de choses qu'on rencontre, nous, à l'ASDA, avec les demandeurs d'asile.
Alors peut-être une question plus particulière à l'un, voilà, savoir comment ça se passe, la question des demandeurs d'asile dans l'un.
Alors, la question des demandeurs d'asile dans l'Ain, c'est une situation qui est compliquée, même complexe. Pour reprendre le cheminement dont je parlais tout à l'heure, donc après la décision de la CNDA, si la CNDA confirme le refus de l'OFPRA, le préfet va exécuter la décision de la CNDA, c'est-à-dire prendre une obligation de quitter le territoire. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'OQTF, obligation de quitter le territoire français. Mmh. Cette OQTF, on a la possibilité de la contester dans le mois qui suit donc son assignation. Et c'est ce qu'on fait de manière systématique en faisant une demande d'aide juridictionnelle pour qu'il ait le demandeur et un avocat et pour que la décision du préfet... puisque toute décision administrative est susceptible d'appel, pour que la personne puisse se défendre au tribunal administratif. Alors, ce qui est un petit peu particulier dans l'un, mais il y a une partie qui est particulière et une autre partie qui est un peu générale, je pense que le préfet de l'Ain, d'une part, applique la politique gouvernementale, qui, on le sait, n'est pas tendre, et malheureusement ne va pas s'améliorer. Et puis je pense aussi que le préfet de l'Ain a une petite marge de manœuvre qu'il n'utilise pas pour, on va dire, régler des situations qui devraient l'être et qui en tout cas l'étaient dans les années auparavant. Pour vous donner une idée, en 2018, le préfet de l'Ain a pris 1300 OQTF. Donc on pourrait imaginer que le préfet de l'Ain assume sa politique d'OQTF systématique et renvoie les personnes dans leur pays, puisqu'il a un arrêté et que cet arrêté, normalement, il devrait être mis en œuvre, puisque c'est quand même son but. Et donc les chiffres fournis par la préfecture, c'est que sur ces 1300, il y a, en gros, hein, je donne des valeurs, il y a en gros 300 OQTF qui effectivement ont été mis en œuvre, c'est-à-dire 300 dossiers que le préfet a effectivement renvoyés dans leur pays d'origine.
Et donc qu'est-ce qui se passe pour tous les autres ?
Et donc ça fait 1000. Le préfet en 2018, mais des années auparavant aussi, il a créé 1000 sans-papiers. Alors ça a deux effets. Il y a d'une part le fait que ces 1000 personnes, il faut qu'elles vivent. Et que, on le sait, le travail au noir dans l'Ain marche bien, et que ça pousse bien évidemment ces personnes qui n'ont pas le droit de travailler, parce qu'elles n'ont pas de titre de séjour, ça les pousse évidemment vers le travail au noir. Le deuxième effet, c'est que ces personnes, elles se cachent, plus ou moins, il ne faut pas se leurrer, la police sait pertinemment où elles sont, mais ces personnes, il faut quand même qu'elles soient quelque part. Et donc elles vont, le plus possible, et là on les aide, elles vont rester dans les foyers. Ce qui fait que aujourd'hui, dans l'Ain et à Bourque, il y a 3 squats. C'est-à-dire, il y a des squats qui sont organisés par le collectif de soutien aux migrants, pour simplement que les personnes qui majoritairement devraient être logées par l'État, parce qu'un demandeur d'asile doit être logé par l'État, l'État n'a plus de place qui est prise donc par ceux qui, si le préfet assumait sa politique, ne seraient plus là, et donc on a une situation qui est bloquée.
Et donc vous, votre rôle, vous intervenez dans ces cas-là, pour ces personnes-là, est-ce que vous intervenez sur le logement, la santé ?
Alors pas à l'ASDA.
Pas au titre de l'ASDA.
Donc à l'ASDA, d'accord. Nous on reste sur des niveaux très administratifs et judiciaires, et donc on accompagne ces personnes pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on va mettre en route des procédures qui permettent de réenclencher des dossiers, de réenclencher des procédures, parce que après un OQTF, il y a encore des possibilités. Donc, j'ai amené un dossier. Vous m'avez demandé d'amener un objet, et donc cet objet pour moi, c'est des papiers. C'est du papier, parce que les demandeurs d'asile, il leur faut des papiers.
Donc là, ce que vous avez devant vous, c'est un dossier d'une personne accompagnée par l'ASDA.
Voilà. Voilà. Et donc...
Oui. Donc il est, voilà, il y a une pochette rose.
Il y a une pochette rose.
Il est assez épais, voilà ça. Ça
et donc il y a le nom, le prénom, le pays d'origine. Et dedans, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver des documents qui permettraient, si on l'ouvrait, et si vos auditeurs le voyaient, qui permettraient de suivre le parcours, le cheminement du demandeur d'asile. Donc on va trouver la demande d'asile, la convocation à l'OFPRA dont on parlait tout à l'heure, le compte rendu. Le compte rendu avec l'officier de l'OFPRA, la décision de l'OFPRA, là c'est un refus, la décision de la CNDA c'est un refus, et c'est là que le dossier devient intéressant pour ce qui nous concerne, c'est que le préfet, pour ce couple-là, a pris deux OQTF, donc une OQTF pour chaque membre du couple. Sauf que, je ne sais pas pour quelle raison, ces OQTF n'ont jamais été reçus par les intéressés. Et le préfet, immédiatement après, compte tenu du fait que les personnes n'avaient pas fait appel à ces décisions, a pris un avis de résidence surveillée. C'est-à-dire que les personnes doivent aller pointer à la gendarmerie ou au commissariat de police. Alors ça varie, mais ça peut être une fois par jour, par exemple. Et donc, en voyant cet arrêté du préfet, les personnes viennent à l'ASDA en disant « mais on n'a jamais reçu l'OQTF, nous ». Et donc, nous, à l'ASDA, qu'est-ce qu'on fait ? J'envoie un mail à la préfecture en leur disant, écoutez, les personnes, vous venez de prendre un arrêté d'assignation à résidence, les personnes disent ne jamais avoir reçu le QTF, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que vous pouvez m'envoyer le recommandé, l'accusé de réception par lequel vous avez envoyé ? Et donc, la préfecture me renvoie le QTF et l'accusé de réception, sauf qu'en y regardant de plus près, je m'aperçois que l'adresse marquée sur l'envoi en recommandé ne correspond à rien et que surtout la poste a marqué que la lettre n'avait pas été
remise,
délivrée. Ce qui veut dire que on a là des situations qui sont un petit peu complexes, mais juridiquement cette assignation à résidence du préfet ne peut pas être acceptée simplement parce que les personnes n'ont pas été informées, et maintenant j'en ai la preuve.
Et donc, vous, votre rôle est de permettre l'aide juridictionnelle.
Voilà, et donc contester. Nous, on va suivre administrativement et juridiquement le dossier pour que les droits soient mis en œuvre. Nous, on y tient beaucoup. On n'est pas des jusqu'au boutistes. On n'est pas des procéduriers parce qu'on aime ça. On veut simplement que les droits qui sont attachés à la personne soient respectés. Tous les droits. Et on demande aussi au préfet d'assumer sa politique. Si le préfet n'a pas les moyens, parce qu'en fait on sait que c'est ça, hein, ils n'ont pas assez d'argent pour renvoyer tout le monde, eh bien, à ce moment-là, on demande qu'ils prennent des décisions qui permettent de régulariser ces personnes. On suit des dossiers qui... moi j'ai un dossier en tête, le couple avec deux enfants est là depuis 7 ans. Le deuxième enfant est né en France, c'est-à-dire qu'il n'a jamais, il n'est pas albanophone, ni il est francophone, il n'a appris que ça. Et donc, pour X raisons, le préfet refuse les régularisations. Il n'a régularisé aucun dossier de personnes venant de l'asile en 2018. Aucun. Ce qui est une pratique qui est contraire à tout ce que ses prédécesseurs ont fait. Et on a toujours eu des préfets qui, bon an, mal an, arrivait à régulariser parce que on sait que c'est le moyen de faire en sorte pour que les personnes s'adaptent au mieux et puissent travailler. Et donc on a aujourd'hui une situation qui est bloquée et qui a donc des effets que les demandeurs d'asile bien évidemment subissent.
On vous remercie Pierre, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et si on souhaite plus d'informations, contacter l'ASDA parce qu'on a envie d'être bénévole, où est-ce qu'on peut vous retrouver ?
Alors, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité, parce que nous avons besoin de bénévoles pour 3 choses. Pour l'accueil, donc les mardis et vendredis matin, il faut que les personnes qui viennent soient accueillies, elles le soient correctement. Il nous faut des bénévoles pour assurer des permanences. Ça demande une petite formation que nous assurons. C'est une formation qui est plus sur le tas. Et enfin, nous avons besoin de bénévoles qui fassent les recours à la CNDA. Donc ça, ça demande d'étudier le dossier dont on a parlé tout à l'heure. Ça demande de savoir mener un entretien avec le demandeur d'asile pour qu'il réponde, lui, aux objections de l'OFPRA. Et ça demande des qualités rédactionnelles qui permettent de faire le recours.
Et donc on vous trouve les mardis et vendredis au Secours catholique.
Aux deux rues Largilière.
À Bourg-en-Bresse.
À Bourg. Et autrement, on peut nous écrire donc à la Maison de la Vie Associative, à la JLCA, et nous envoyer un mail. Alors, je vais aller très lentement, asda.contact@laposte.net.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
1901 sur 90, sur Radio B, l'instant formation.
Alors, un moment formation plutôt sous forme de billet d'humeur. Voilà, on le voit, on manque toujours de bénévoles et on se pose souvent la question comment est-ce qu'on peut valoriser cet engagement bénévole. Donc, vous l'avez sûrement tous connu, cette assemblée générale où on remet un bouquet de fleurs ou un panier garni à la présidente investie depuis longtemps et qui passe la main, larme à l'œil. Vous entendez ici ou là des réflexions du genre on n'en trouvera plus des gens comme ça, de toute façon, les gens ne s'engagent plus car on ne les reconnaît plus à leur juste valeur. Et à cela, vous avez la réponse unique, un passeport bénévole pour valoriser les compétences acquises dans le but de trouver un travail ou d'avoir une valorisation financière. Mais youpi, comme si l'argent était le principal moteur pour permettre un engagement bénévole qui est par définition gratuit. Alors moi, je vous propose de dire merci. Vous savez, un vrai et profond, sincère merci qui vient du fond du cœur. C'est un mot si important pour tous les bénévoles qui financent des sorties scolaires, qui accompagnent des demandeurs d'asile, qui gèrent un accueil de loisirs, qui organisent une manifestation, qui récoltent de l'argent pour lutter contre une maladie ou qui œuvrent pour la culture, pour les jeunes, tant de domaines essentiels à notre société. Alors pour une fois, je vous propose moi aussi de prendre ma part pendant la minute qui suit pour remercier des personnes sans qui le monde serait vachement moins chouette. Merci à Marie et Michel qui vous permettent aujourd'hui d'écouter cette radio citoyenne. Merci à Laurie, Lucie et Léo qui animent des jeunes ruraux afin qu'ils puissent réaliser des projets d'intérêt général. Merci à Anne qui a créé une recyclerie permettant le réemploi d'objets usagés et la création de 16 emplois. Merci à Jean-Paul qui se bat pour l'accompagnement des personnes dépendantes aux drogues. Merci à Guy qui anime le comité des fêtes de son village, qui crée ainsi plus de liens sociaux. Merci à Anne-Marie qui emmène des personnes âgées en EHPAD en vacances et qui lutte ainsi contre leur isolement. Merci à Émilie qui agit pour permettre la culture pour tous en milieu rural. Je pense encore à Pierre, Alexis ou Caroline qui ont créé chacun un festival dans leur village. À Emmanuel et Bernard qui s'engagent auprès des demandeurs d'asile. Alors merci à vous toutes et tous, à tous ceux que je ne pouvais pas citer car vous êtes plus de 110 000 sur le département de l'Ain. Merci de vous investir gratuitement pour notre bien vivre ensemble à tous.
1901 sur 90, sur Radio B, l'agenda de la Maison des Assos. Un petit point sur les formations proposées à la GLCA au mois de décembre. Donc il y aura les solutions de financement le 3 décembre à 19h. Organiser une assemblée générale utile et agréable le 5 décembre à 19h à Lagneux et comprendre les finances associatives le 10 décembre encore à la GLCA à Bourg-en-Bresse.
.1901 sur 90, la radio des assos, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le mois prochain sur 90 FM, les ondes de Radio B, ou en podcast sur le site internet radio-b.fr à la rubrique 1901 sur 90, où vous retrouverez toutes nos infos. À bientôt !